Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala hila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Chers frères, la dernière fois on avait vu l'histoire de l'adoption du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt la prise en charge par Halima As-Sa'diyya. Et on avait vu la hikmah d'Allah, la sagesse d'Allah, dans le choix de cette femme et de cette famille qui allait accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la leçon qu'on avait retenue, c'est que des fois, Allah ralentit, nous ralentit, crée des situations parfois préjudiciable, comme c'était le cas de Halima, qui est arrivée très en retard parce que sa monture était lente. Elle avait une ânesse qui était faible, qui ne pouvait pas, on va dire, tenir le rythme. Et arrivée à l'endroit où elle devait récupérer des enfants, les gens étaient déjà partis. Et il restait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont personne ne voulait parce qu'il était orphelin, et c'était son taqdir. Et donc, des fois, dans la vie, Allah nous envoie des difficultés. Les situations d'épreuve, Allah nous ralentit, c'est peut-être et souvent pour nous donner quelque chose de meilleur. Alors, on reprend aujourd'hui à partir du moment où Halima As-Sa'diyya va récupérer cet enfant. Elle explique que quand elle est arrivée à cet endroit, il ne restait que cet enfant dont personne ne voulait. Et elle s'est dit intérieurement, je n'aimerais pas revenir avec mes compagnes sans avoir moi-même trouvé un nourrisson. Pour elle, ça aurait été un échec de rentrer sans avoir un bébé. Et donc, elle s'est concertée avec son mari et son mari lui a dit « Prends-le par la grâce d'Allah ». On avait expliqué que les Arabes croyaient en Allah, d'accord ? Ils plaçaient leur confiance en Allah. Ils disaient « Peut-être qu'Allah fera de cet enfant une source de bénédiction, de baraka ». Et c'est là que nous allons voir, nous allons commencer donc à découvrir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nourrissons et déjà rahmatan lil alamin, une bénédiction pour les mondes. Et on avait rappelé un problème, pas de santé, mais à propos de la constitution même de Halima As-Sa'diyya. Elle était nourrice, mais elle n'avait pas suffisamment de lait pour son propre enfant. Et on avait dit que là, ça, c'est un problème. Là. Elle n'a pas assez de lait pour son enfant et elle va prendre un autre bébé. Mais on va voir comment Allah Rabbul Izzah crée des décisions. Nous, on voit les événements de la vie sous un prisme, c'est-à-dire l'analyse humaine. Il y a des problèmes, il y a des complications, il y a des blocages. Ça ne marchera jamais, ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent. Et Allah Azza wa Jal ouvre les portes. Je fais un parallèle. Bon, je sens trop me perdre. Je vous donnerai un exemple parmi tant d'autres. C'est la sirat qui nous permet également donc, de comprendre comment Allah Azza wa Jal agit avec nous et d'extraire ces leçons pour les appliquer dans notre vie de tous les jours. On passe à un domaine totalement différent. Je suis un jeune homme de 22 ans, Yalait. J'ai 22 ans et je souhaite me marier. Mais je n'ai pas les moyens, le travail, c'est pas sûr, les revenus et ainsi de suite. De le Coran, Allah Rabbul Izzah nous rappelle à travers un verset « In yakunu fuqara'a » Où sont les hafiz? In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Allah promet que si il s'agit de quelqu'un qui veut se marier et qui n'a pas les moyens, ça ne doit pas être un frein. Et Allah va accorder la baraka, la bénédiction. C'est-à-dire que des fois, nous, on voit les choses qui sont compliquées, mais il suffit qu'Allah envoie son aide pour que les choses deviennent beaucoup plus simples. C'est une conviction, ça. Ça, c'est un yaqin. Et ça nous permet d'avoir une attitude positive dans toutes les situations de la vie. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'être pessimiste. Il y a des gens qui sont profondément pessimistes. Pour eux, non, ça ne marchera jamais, tout sera voué à l'échec, ça ne sert à rien, ça ne vaut même pas la peine d'essayer, ainsi de suite. Ah, ces gens-là, ils brassent du négatif. Ils n'avancent pas et ils empêchent les gens également d'avancer. Alors que si on regarde le modèle prophétique et la vie du prophète de façon générale, il y a des blocages partout. Mais Allah envoie son aide et en finalité, ce qui se passe dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Et comme Allah a agi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est capable d'agir avec nous de la même façon, à notre niveau bien sûr. Mais la Nusrat d'Allah, elle est bien présente. On reprend. Donc, à partir du moment où Halima récupère cet enfant, elle va remarquer plusieurs événements miraculeux. Et j'ai essayé de les lister. J'en ai trouvé 4. Après, peut-être qu'il y en a plus dans d'autres ouvrages un peu plus détaillés. Elle dit que pendant le trajet, donc ils ont fait une pause à un endroit, elle a donné à boire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en premier. Et il dit, je lis le texte, à ma grande surprise, j'ai eu assez de lait pour le nourrir. Alors que pour son propre enfant, il ne pouvait pas. Et quand le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a bu avec elle, il a pu boire en quantité. Et elle n'avait jamais pu nourrir un enfant comme elle l'a fait avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après le prophète, elle a pris son fils à lui qui a pu boire également. Ça ne lui était jamais arrivé. Donc là déjà, elle remarque qu'il y a quelque chose qui a changé. Et c'est cette bénédiction qu'Allah va accorder à cette famille qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, ils vont le découvrir jour après jour. C'est le premier événement. On va lister hein, pour que ce soit plus clair. Plutôt que d'être dans la narration, on va les lister. Deuxième événement. Il dit que le lendemain, mon mari se leva pour traire la chamelle. Je ne sais pas si on avait parlé de la chamelle. Ils avaient une chamelle qui était vieille et qui ne donnait plus de lait. Ou alors quasiment pas de lait. Et là, elle dit qu'elle nous procura beaucoup de lait. À un tel point, on va dire une telle quantité, qu'ils ont, elle, son mari, tout le monde a pu boire à ventre plein. Et vous savez que le lait, c'est un aliment complet. Théoriquement, si quelqu'un boit un bol ou deux bols de lait, c'est comme si qu'il a mangé, quoi. D'accord ? Théoriquement, en termes de nutrition, ainsi de suite, ça peut remplacer une nourriture solide. Après, bien sûr, on parle du lait pur, la chamelle. De nos jours, je ne sais pas qu'est-ce qu'on boit. On boit de l'eau colorée en blanc avec. Ils ont injecté je ne sais pas combien d'antibiotiques dedans. Je ne sais pas, est-ce que c'est encore profitable ? Pour venir chez nous à Saint-Clotier, il y a encore des. Hein, ils livrent le lait comme. Hein, dans le quartier, il y a encore ça. On continue. Donc, deuxième bénédiction. Première fois que la chamelle donne autant de lait. Et toute la famille a pu boire. Et elle nous dit qu'on a pu boire jusqu'à ne plus ressentir la soif ni la faim. Et nous passâmes une bonne nuit. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Ça n'était pas arrivé par rapport à eux-mêmes, mais également par rapport à leur bébé qui ne pouvait pas boire correctement avec la maman. Et là, alhamdoulilah, cette famille connaît une nuit paisible de baraka, de bénédiction. Et le lendemain, son mari, qui était un homme intelligent, il s'est dit que par Allah, sais-tu, ô Halima, que tu as recueilli un enfant béni. Je pense qu'en arabe, ça doit être beaucoup plus beau à entendre, mais je n'ai pas la version en arabe. Et le mari Il a compris que cette bénédiction, ce changement, ça vient de cet enfant que nous venons d'accueillir. Ça fait deux. Troisième événement, on va aller un peu plus vite. Donc là, ils sont pas encore chez eux, hein, ils sont sur le chemin du retour. Et là, elle dit qu'elle est sur son ânesse. Je rappelle que l'ânesse, c'est la femelle de l'âne, d'accord ? Et elle est sur cet animal avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que cet âne qui, pourtant, était la cause de leur retard à l'aller. C'est à cause de cette ânesse, qu'elle est arrivée en retard. Et elle n'a pas pu avoir d'autres enfants qu'elle souhaitait prendre. Et cette ânesse, au retour, mashallah, elle met le turbo, on va dire. D'accord ? Elle marche à une vitesse, elle avance, elle court, je ne sais pas comment ça se dit. Et les autres femmes qui avaient récupéré d'autres enfants, elles ont vu, elles ont dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta monture ? On a toujours connu ta monture très lente, ce qui fait que tu as été toujours en retard. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Bien que tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose d'anormal, on va dire plutôt de miraculeux. Ça fait trois. Quatrième, on avait dit qu'ils avaient un terrain. Elle faisait partie de la tribu des Bani Sa'd. Et c'était une terre aride. Il n'y a rien qui poussait. Il n'y avait rien qui poussait. Et ils avaient également des brebis. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas d'herbe, on n'a pas fait un cours de biologie, mais s'il n'y a pas d'herbe, la brebis ne mange pas à ventre plein, elle ne produit pas de lait. Donc, c'était vraiment une situation d'épreuve et de pauvreté. Et il dit que là, ces brebis revenaient le ventre plein. Mais qu'est-ce qu'elles broutaient, ces brebis ? Dieu seul le sait. Qu'est-ce qu'elle broutait ? Il n'y avait rien. Mais elle revenait le ventre plein. Et du moment que la brebis a le ventre plein, elle donne beaucoup de lait. Et je le répète encore une fois, le lait est un aliment complet. Avec ça, toute la famille, mashallah, mangeait le ventre plein. Et les autres tribus, étaient étonnés et ils ont envoyé maintenant leurs moutons paître au même endroit que les Bani Saad, en pensant que voilà, c'est peut-être l'endroit, il y a quelque chose de spécial et tout, mais c'était pas une terre, c'était pas une question de récolte, c'était pas une question d'animal, c'est pas la brebis qui apporte tout ça. C'est Allah qui a décidé d'ouvrir la porte de la baraka. Quand on entre dans la masjid, qu'est-ce qu'on dit? Allah maftahli. Il y a juste à demander. Il y a juste à demander. Quand tu rentres dans la masjid, demande, oh Allah, ouvre-moi les portes de ta bénédiction. Quand on mange, bismillahi, il y a deux versions, wa'ala ou bien sans wa'ala. Bismillahi wa'ala, baraka. Qu'est-ce qu'on demande? Le bi, c'est je commence par, c'est une préposition. Je commence par le nom d'Allah et bismillahi wa'ala barakatila en implorant, demandant Allah la bénédiction. Mais c'est ça la clé. Aham Shay, c'est ça. C'est que avant chaque action, tu demandes à Allah son aide et sa bénédiction. Et la bénédiction d'Allah ne dépend d'aucun moyen, d'aucun asbab. Il peut y avoir un intermédiaire, il peut y avoir des moyens, mais Allah peut envoyer son aide sans intermédiaire et sans, on va dire, rien qui est visible, du moins, des yeux des hommes, mais visible par notre Seigneur qui lui sait qu'est-ce qu'il envoie comme nous sommes. Comme là, le cas du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enfant, il n'a rien fait, c'est un bébé, il a à quelques jours de la naissance. Sa simple présence est synonyme de rahma et de baraka pour cette famille. Et pour l'instant là, la baraka elle est encore contenue entre Halima Saadia, son mari et leur enfant, c'est-à-dire leur petite famille. Mais attendez qu'ils grandissent, subhanallah, pour que cette bénédiction devienne, elle va se généraliser. Hada. On va aller un peu plus vite, inshallah. Et elle dit, je conclue ce passage, nous continuâmes à vivre ainsi dans la bénédiction que Dieu nous prodiguait jusqu'au jour où j'ai sevré Mohammed, il avait 2 ans. Théoriquement, sa mission est terminée. Sa mission est terminée. Je répète, je rappelle, cette habitude chez les Arabes, c'était de confier le bébé à une nourrice pendant le temps de l'allaitement. Ça peut être 1 an, moins d'un an, un peu plus d'un an. Et lorsque la période de l'allaitement est terminée, la nourrice, elle, rend l'enfant à la famille et elle perçoit sa rétribution financière, ce qui était prévu. Et là, le Mohammed, elle dit que Mohammed a grandi, il avait une beauté, une corpulence qui dépassait les autres enfants de son âge. Il dit que nous le ramenâmes à sa mère, retourne avec sa maman, mais intérieurement, elle ne voulait pas rendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa maman. Pourquoi? Parce que son cœur s'était attaché à lui. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était pas une question de transaction. Je le garde encore un peu de temps. On renégocie le contrat. Il n'a jamais été question de tout ça dans les textes de Sirat. C'est vraiment que le cœur de Halima et de son mari était attaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quelque chose que nous allons voir tout au long de son enfance, sa jeunesse. Chaque personne qui posait les yeux sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben, il voyait que son cœur s'attachait à cette personne, à cet enfant. Il y avait quelque chose de puissant chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fait que toute personne l'aimait et le trouvait exceptionnel. Et ça va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il devienne prophète. Et là, les choses vont devenir compliquées. Oui, compliquées. On continue. Donc elle dit que elle est partie voir la maman et elle a conseillé à, comment s'appelait sa maman?
Amina.
Amina. Voilà, la jeunesse est là, mashallah. Sa maman Amina, elle a été voir Amina pour dire que ben laisse-le encore un peu avec nous, parce qu'à Makka il y a des maladies, c'est une grande ville, il y a beaucoup de gens, il y a des microbes et tout et tout. Elle a trouvé des raisons, des excuses et tout. Et la maman, et elle dit que si elle reste, il reste encore un peu dans le désert avec nous, il va devenir robuste et il sera plus résistant. La maman a accepté. Et donc elle était heureuse de garder cet enfant avec elle. Et là, elle n'a plus le rôle de nourrice. Là, elle ne fait qu'élever, garder cet enfant auprès d'elle. Naam. Et donc le prophète alayhi salat wa salam reste chez les Bani Saad jusqu'à l'âge de 4 ans et dans certaines versions on parle de 5 ans. Et là, il va y avoir un événement. Quel est cet événement? Qu'on appelle en arabe Shaqq al-Sadri. L'opération de la poitrine. On a tous entendu parler. Il n'y a pas besoin de raconter des détails. J'ai dit tout ça, c'est des choses que tout le monde connaît. Mais voilà, on se rappelle un petit peu pour voir un peu tout le caractère miraculeux et la lumière qu'il y a dans ces événements. Notre prophète, alayhi salat wa salam, jouait avec d'autres enfants. Et l'ange Jibril, il y a deux façons de dire Jibril ou Jibrail. Les deux sont corrects. Alayhi salam est venu sous l'apparence d'un être humain, sous l'apparence humaine. Il a pris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a allongé au sol, il a ouvert sa poitrine. Alors là, s'il y a des médecins, imaginez qu'il y a des médecins qui sont là, qui disent non, c'est quelqu'un qui n'a pas iman, je veux dire, quelqu'un qui est médecin ou cardiologue ou peu importe, mais qui n'a pas la ilaha illallah. Il va dire que non, vous racontez n'importe quoi. Dans le désert, il a allongé, il a ouvert sa poitrine, mais il est mort cet enfant. Pas d'anesthésie, il y avait rien de... Non, vous racontez n'importe quoi, c'est pas possible. Vous voulez dire que cet homme l'a tué. Et après l'avoir tué, il s'est relevé. Donc il va dire que non, vos histoires, on ne les croit pas. Mais nous, on sait que, subhanallah, ça c'est ce qu'Allah a prédestiné. Et là où c'est subtil, et il y a beaucoup de savants, je n'imaginais pas... En fait, quand on revoit certaines choses, hein, on va dire des connaissances basiques et qu'on creuse, on se rend compte que la connaissance, ça ne s'arrête pas. Le nombre de savants qui ont écrit des articles sur l'opération de la poitrine pour essayer de comprendre, mais pourquoi cette opération de la poitrine? Pourquoi? On le sait, on va voir, peut-être si on a le temps, quel était l'objectif. Vous savez, l'objectif c'était quoi? C'est d'enlever. On a des experts en cela, le sang noir qui incite l'homme à accomplir des péchés. Mais certains savants se posent la question, mais pourquoi ce mécanisme? Pourquoi quelque chose d'aussi, entre guillemets, visible? J'allais dire violent, c'était pas violent. Pourquoi quelque chose de visible comme ça? Allah aurait pu faire disparaître ce sang-là sans intermédiaire et par le biais de la révélation mentionner que le prophète est épargné de ça et ainsi de suite. Non, Allah a voulu que ça se passe comme ça. On verra certaines leçons de sagesse et ce que je peux dire tout de suite, parce qu'on va parler d'un événement qui est quand même un peu extraordinaire, ce qu'on doit retenir, c'est une épreuve. Une épreuve pour la foi du croyant. Est-ce que je vais me cantonner, du verbe, hein, pas le repas, est-ce que je vais me cantonner sur mes connaissances scientifiques, mon approche rationnelle et l'analyse de ce médecin qui dit que c'est impossible, ou alors je me dis que si c'est Allah qui a décidé que ça se passe comme ça, et qu'on a un récit qui est authentique rapporté par des chaînes de narration qui sont authentifiées, amanna wa saddaqna. C'est ça la bonne façon de comprendre le din. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par des miracles. Si tu veux croire à cet homme, tu dois être capable de mettre de côté tes principes. Ton esprit cartésien, qui est souvent carté excessivement. Ton esprit d'analyse scientifique ou autre chose. Oublie un peu tout ça. Et tu te dis que tu as affaire à quelqu'un qui est hors du commun, qui est unique dans l'histoire de la création. Sa vie, je répète, commence par des épreuves et des miracles. Donc tu ne pourras suivre cet homme si tu ne crois pas à ce qu'Allah t'a montré. Et tu ne pourras pas suivre cet homme et être comme lui si toi-même tu ne passes pas par des épreuves. Je ne peux pas dire que je veux être comme lui, alayhi salatu wa salam, mais en même temps, je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Ça, on aime ça. Ah, notre zone de confort, c'est, on ne veut pas en sortir. Je veux mon quotidien, les choses qui m'apportent du plaisir, du bonheur, et m'embêtez pas avec d'autres choses, d'accord? Non. Alif Lam Mim, qui complète? Quel Alif Lam Mim? Choisissez. On parle d'épreuves. Ahasibanna yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Suratul Ankabut, il me semble. Ankabut. Allah Rabbul Izzah révèle dans ce début de surat, on va sortir du sirat, hein, je ne veux pas aller dans le tafsir, mais ce début de surat prouve que si tu veux te rapprocher d'Allah, il est impensable et inimaginable que tu espères que ça se passe comme un, c'est mes mots ça, Je fais des rails, je fais des roulettes. C'est pas un long fleuve tranquille, ça. Ce cheminement via ton Seigneur, ça va obligatoirement passer par des épreuves. Car les meilleurs des hommes ont connu les plus grandes épreuves. La maladie de Ayoub, les trahisons subies par Youssouf alayhi salam, les épreuves d'Ibrahim alayhi salam, de sa chair, son enfant, l'abandonné dans le désert, son fils, ensuite, plus tard, le sacrifice, bref, et le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucun cheminement vers Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de fermeté dans la foi sans connaître les épreuves à notre échelle, bien sûr. Pas comme les prophètes, mais à notre échelle. Donc, allez, je referme, pardon, on est parti un peu loin. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que la vie du prophète alayhi salat wa salam commence avec des épreuves et des miracles. Il y a ces deux ingrédients-là. Si tu veux comprendre la sirat et si tu veux suivre cet homme, accepte tout ce qu'Allah t'a dit. Et mets de côté ton raisonnement humain. Et mets en avant al-iman bil ghaib, ce qui est une base. L'autre alif lam mim. Dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Une qualité essentielle, la qualité première du croyant, c'est croire en l'invisible. D'accord? Et du coup, ce qui veut dire, ça implique de ne pas utiliser nos acquis dans notre vie de tous les jours, tout ce qu'on a à travers la vie entre guillemets réelle, mais également la vie virtuelle, les réseaux sociaux et tout ça, qui nous amène vers d'autres courants. Mais non, on met tout ça de côté. Quand on étudie la vie du prophète alayhi salat wa salam, on se dit que sa vie même est un miracle. Allez, on revient vers l'opération de la poitrine. Donc, l'ange Jibril alayhi salam allonge Mohammed alayhi salat wa salam, qui a quel âge encore? 4 ans ou 5 ans. Qui a un enfant qui a 4 ans ici? C'est petit, 4 ans. 4 ans, c'est petit. Hein. Tu te rends compte? Quel choc! Qu'est-ce qu'il a pu ressentir? Et le prophète alayhi salat wa salam va également apprendre à travers ces différents événements à s'en remettre à Allah entièrement. Il y a peut-être des choses extraordinaires comme ça, mais il s'en remet à Allah. On continue. Et il a ouvert sa poitrine, il a retiré, et en retirant de son cœur un caillot de sang. Et Jibril dit que cela représente l'emprise de Shaytan sur toi. Ensuite, il a lavé le cœur, ça veut dire que le cœur a été extrait du corps. Bon, là, les cardiologues sont morts déjà. Les cardiologues ont changé de métier. Ils vont faire maçon, ils vont faire plombier ou mécanicien, mais ils ne peuvent plus exercer ce métier parce que là, ça n'a plus de compas. Mais nous, iman bil ghaib. Il faut vraiment s'accrocher à ça. Et donc, le cœur du prophète a été lavé avec de l'eau de zamzam dans un récipient en or. Je me rappelle encore des termes de notre professeur, Allah yahfadhu, qui nous avait dit le récipient, ça s'appelle en arabe un tost. Je n'ai plus jamais rencontré ce mot de toute ma vie. C'est des termes très rares. Toi, sin, ta, fi, tostin, récipient, où le cœur, par exemple, a été lavé dans un récipient, donc un an. Voilà. Et il l'a replacé dans la poitrine. Ah, c'est compliqué, ça. Si on connaît le nombre d'artères, le nombre, je sais pas, Allah protège, mais ceux qui ont déjà subi ou qui connaissent quelqu'un qui a fait une opération à cœur ouvert, entre les instruments qu'il faut pour écarter, hein, si quelqu'un regarde les Dr House ou je sais pas les trucs médicaux, ça peut être quand même intéressant. Plutôt qu'on aller des bêtises, on voit qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une cage thoracique. On dit que c'est ça, tu peux pas l'ouvrir avec tes mains. C'est tellement résistant. Ça c'est hada khalqullah. Allah crée les choses comme ça. C'est incroyable. Il faut un appareil qui puisse écarter et même ça écarte, ça ne casse pas. Ajib, comment Allah a protégé les organes vitaux dans cette cage. Thoracique, d'accord? Et donc, quand il y a une opération à Covec, on replace le cœur, il y a reconnecté les artères, je ne vais pas dire de bêtises, mais là, il l'a retiré et il l'a remis. Parce qu'Allah crée la nature humaine et Allah a décidé que les choses se passent de cette façon. Allah est le créateur qui donne la vie et la mort. Et là, les enfants, on va un peu plus vite. Il ne faut pas qu'on dépasse 25 minutes. On est à 26 minutes. Les enfants affolés vont voir Halima, dit qu'on a tué Mohamed et elle a eu peur. Elle a vu Mohamed qui était en bonne santé, il était bien, juste que son visage était pâle. Et là, elle va ramener le prophète alayhi salatu wassalam chez sa maman parce qu'elle a eu très peu à Halima, qu'il arrive réellement ou que ces gens reviennent. Elle n'a rien compris en fait. Elle n'a rien compris. Et donc, elle, à l'âge de... Non, il ramène le prophète alayhi salat chez sa maman. Mais on va s'arrêter à là. Pour aujourd'hui, on s'arrête à là et on voit juste une petite analyse, ce que j'ai pu trouver sur Internet. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Alhamdulillah, c'est accessible, c'est facile, accessible à tout le monde. Les savants disent qu'il y a eu 3 opérations de la poitrine. Qui peut me les citer ? À la naissance, ensuite il y a eu lors de la première révélation et lors de le troisième le plus... Ah bon, j'allais dire que c'est le plus compliqué. Lors du voyage, le voyage nocturne, d'accord. Et chaque opération de la poitrine avait une hikma, une sagesse. L'opération de la poitrine à la naissance, c'était pour enlever le sang noir qui pousse l'homme à accomplir des péchés. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Il est dans la nature de l'être humain que d'aller vers le mal, d'aller vers le péché. Maintenant, là aussi, je ne sais pas si c'est Al-Buti auquel j'avais lu, il dit que mais ce n'était pas qu'une question, c'est pas qu'une question de sang noir, parce que autrement, si je suis cette logique, en fait, dans cette opération, ce qui est complexe, c'est qu'on a en même temps le miracle et on a en même temps quelque chose de très concret qui est explicable. Et faire le lien entre les deux, c'est très compliqué. Soit on est purement rationnel, soit on est purement, voilà, que de le spirituel, mais non, il y a les deux ensemble. Et donc, ce cher, je sais plus son nom, il a dit que ça ne veut pas dire que si je veux être protégé des péchés, je vais voir mon cardiologue à Mecca, un cardiologue musulman, d'accord, ou mon cardiologue à Jeddah, ou à Karachi, ou un pays musulman, bref. Et je dis, voilà ton travail. Tu vas ouvrir ma poitrine, retirer mon cœur et trouver où est ce sang noir qui me fait faire zina, qui fait que je regarde des choses haram sur Internet, qui fait que quand je vais à la banque, je signe, je prends avec un taux de 3%. C'est pas ma faute, c'est le sang noir qui est resté dans mon cœur. Donc aide-moi, enlève ce sang noir. Est-ce que c'est qu'une question d'opération? Est-ce que c'est qu'une question de... C'est pas une question d'anatomie. Il y a ça pour que l'être humain comprenne qu'il y a une origine. Mais il y a des choses qui nous dépassent. C'est la décision d'Allah. Donc, c'est pas une question de sang noir uniquement. Je reprends. C'est pas qu'un cardiologue peut t'aider spirituellement. Non, c'est plutôt un savant qu'il te faut pour enlever ce sang noir. Et avec ça, tu ne commettras plus de péché. Tu deviendras un homme pur. Ce n'est pas aussi simple. Ou alors, je vais un peu plus loin. Voilà, je veux qu'on me greffe le cœur d'un homme pieux. Cet Al-Bouzouk va mourir, je prends son cœur gris. Ça ne marche pas comme ça. Donc il y a ce côté de sang noir qu'on peut comprendre, mais il y a au-delà de ça des choses que nous ne comprenons. Et ce que je trouve très bien, c'est que chaque alim qui a donné son avis sur l'opération de la poitrine, il termine une clôture en disant « Wallahu ta'ala a'lam » et Allah est le plus savant. Allah seul sait comment, pourquoi et Allah fait ce qu'il veut. Donc c'est à la naissance. Deuxièmement, on va aller un peu plus, encore plus vite, lors de la première révélation, alors je retrouve, ça c'est Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a commenté, non, pas toi Anas, cher, non, Ibn Hajar qui a commenté, allons, l'ouvrage le plus majestueux de la connaissance religieuse, Fathul Bari, les commentaires de Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari, si vous essayez de le porter, il vous faudra une ceinture lombaire pendant 3 semaines. C'est Amalun Jabbar, c'est extraordinaire ce qu'Allah a donné comme connaissance à ses savants. Et Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, donc j'ai retrouvé. Il dit que lors de Ind al-Bi'atha, lors de la première révélation, c'était quelque chose qu'Allah a accordé, par exemple, une puissance qu'Allah va accorder au prophète alayhi salatu wassalam, bi qalbin qawiyin fi akmal al ahwali min al tathir. C'est un cœur qui va devenir très fort, solide, et qui va être purifié, mais il a déjà été purifié, mais il va atteindre le plus haut degré de purification. C'est le cœur du prophète alayhi salatu wassalam qu'Allah prépare pour accueillir quelle sourate, Intiaz? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Na'am. Et troisièmement, c'est lors du voyage nocturne, les savants disent, c'était pour permettre au prophète alayhi salat wa salam de voir le monde de l'invisible, de voir des choses qu'aucun être humain ne peut voir. L'être humain ne peut pas supporter une telle vision. Et donc, l'objectif du voyage nocturne, c'était pour permettre au prophète déjà de monter. Là aussi, sur le plan scientifique, ce n'est pas acceptable. Au piton des neiges, on a du mal à respirer. Je dis ça, j'ai jamais été. D'accord? J'imagine. Paris qu'à une certaine altitude, voilà, c'est difficile pour respirer et tout. Et là, on parle même plus de 2000, 3000 mètres. Ça m'a fait un voyage. Il est monté aux cieux. Donc, dites ça à un astronome, je dis non, ça n'a aucun sens. En fait, là, vous allez vous mettre à dos tout le monde. En étudiant la sirat, vous allez vous mettre à dos tous les scientifiques, les historiens, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, c'était pour permettre, par exemple, de faire ce voyage, de supporter tout ça, de voir le paradis, de voir l'enfer, et d'approcher du Sidratul Muntaha et tous les événements qu'on connaît du voyage nocturne. Voilà trois événements, trois fois l'opération de la poitrine. Allah seul sait pourquoi est-ce que ces maqsad, purification, renforcement du cœur et tout, ont transité par cette intervention à chaque fois. Alors qu'Allah était capable de lui accorder le bénéfice recherché sans transiter par ces opérations, mais pour que ce soit un signe également. Pour que les humains qui ont vu et qui prennent conscience, Sahaba dit qu'on voyait encore la trace de l'opération de la cicatrice de l'opération de la poitrine, pour que ce soit un signe d'Allah qui marque les cœurs. Vous savez que les Arabes, pour eux la narration c'était important, raconter ce qui s'est passé, les récits, et tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit, et ça marque les esprits. Cette histoire va se répandre, va s'arrêter à la prochaine fois, Inch'Allah. La prochaine fois, on verra l'étape où le prophète alayhi salat wa salam retourne auprès de sa maman. Et là, on va commencer à voir les premières grandes épreuves pour un enfant qui n'a que 6 ans, qui est déjà né orphelin et qui va perdre sa maman. Et là, on va voir comment le prophète va être éprouvé par la mort. Et pour nous, c'est une grande leçon. C'est-à-dire qu'on peut juste dire que voilà, le prophète a perdu sa mère, il n'avait pas son papa à sa naissance, il a perdu sa maman à 6 ans, il va perdre son grand-père à 8 ans, et ainsi de suite. Et juste énumérer, citer et avancer. Non, ce n'est pas ça le but de l'étude de la sira. Le but, c'est de voir ce que le prophète a vécu comme épreuve et quelle fut sa réaction, et de s'en inspirer. Quand je vais perdre mon père, ou quand je vais perdre un être proche, ça ne veut pas dire que tout s'effondre. Quoi qu'il est plus facile de le dire là maintenant, mais quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, c'est ça la réaction du croyant, être capable de se raccrocher à sa foi, iman billah, et au modèle prophétique. Parce que Allah fait que le prophète, tout ce que tu peux vivre de difficile dans ta vie, il l'a vécu lui, mais à puissance 10 ou 100 ou beaucoup plus. Donc ton modèle, c'est lui. Lors de la perte d'un proche, ne jamais oublier que le prophète a été éduqué de cette façon. Toute sa vie, gravité autour de ce genre d'épreuve, perte de son père, de sa mère, de son oncle, de son grand-père et son épouse, on verra, et ainsi de suite, et même sa fille et son fils. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil izzati.